19h, belle soirée sur Europe 1.
Quelques petites toiles d'araignée
à retirer, mais sinon la salle est prête, les films sont dans les serveurs et on n'a plus qu'à avoir des spectateurs et appuyer sur play.
Un peu de la vie d'avant, en attendant celle d'après. Deuxième étape du déconfinement demain, avec notamment la réouverture des cinémas, débarrassés de leurs toiles d'araignée, mais aussi des bars et des restos en terrasse.
Emmanuel Macron appelle à défendre la viande française partout, y compris au restaurant. Les professionnels du secteur applaudissent.
La gestion de la crise sanitaire en France, autopsiée par le professeur Didier Pittet. Ses conclusions, ça a mal commencé, mais on s'est bien rattrapé.
Le conflit au Proche-Orient, c'était une erreur de penser que le temps arrangerait les choses, dit aujourd'hui le ministre français des Affaires étrangères.
Au Mexique, une vague d'assassinats politiques. À la veille des élections, 32 candidats tués. Les cartels de la drogue veulent influencer le vote par le sang, nous dira Didier François. Et puis quand un rêve de milliardaire se concrétise, pour le plus grand bonheur des amateurs d'art, François Pinault ouvre samedi son musée dans les anciens locaux de la Bourse de commerce à Paris.
La météo avec Anissa Dadi, il y a du mieux un peu demain.
Oui, il faut être encore un petit peu patient, Julien, avant d'avoir une vraie journée agréable. Elle est prévue pour jeudi. Demain, l'amélioration va commencer à l'ouest et au bord de la Méditerranée, dans une ambiance toujours bien fraîche pour la saison.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Vous aussi, vous avez vu toutes les séries qui existent et vous rêvez de retrouver les salles obscures. Eh bien, c'est pour demain.
Et puis, on lit des livres aussi quand même. Heureusement, deuxième étape du déconfinement, la réouverture des bars et des restaurants en terrasse, mais aussi donc des théâtres et des cinémas. Et ça fait du bien.
Oui, Jean-Luc Bougeon, vous êtes rendu dans un multisalle en périphérie de loin de Lyon, à Brignais, où tout est presque prêt.
Oui, ce sont les derniers préparatifs au CGR de Brignais, le deuxième plus gros cinéma de l'agglomération. On installe boissons et confiseries dans les rayons. On remplit le bac à pop-corn et surtout, on finit de nettoyer les 15 salles du multiplex, explique Florian Renault, le directeur adjoint.
On a bien nettoyé, là, on a nos équipes de ménage qui peaufinent et qui finissent.
Et quoi, il y avait plein de poussière?
Bah, ça prend un petit peu la poussière, même si on l'entretient. C'est vrai qu'un cinéma qui vit pas, malheureusement, quelques petites toiles d'araignée à retirer pour que tout soit nickel. Mais sinon, la salle est prête, les films sont dans les serveurs et on n'a plus qu'à avoir des spectateurs et appuyer sur play.
Voilà, donc le play, ce sera demain avec la première séance programmée à 10h30, une quinzaine de films à l'affiche ici et pas mal de monde attendu, croit savoir le responsable, même si la jauge sera de 35% dans chaque salle, ce qui équivaut à un siège sur trois. Mais peu importe pour Florian Renault, ce qui compte, c'est de pouvoir à nouveau accueillir le public.
Il y a quand même une attente des gens, ils ont besoin de sortir. On a tous été fermés, moi je crois que j'ai plus aucune série Netflix à regarder. Donc c'est vrai que les gens ont besoin de sortir, donc il y a un réel besoin de ressortir au cinéma, surtout qu'en plus on revient quand même avec une programmation qui est assez diverse, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc nous on est super ravis de réaccueillir les spectateurs.
Voilà, alors parmi les films les plus attendus, on pourra voir ici Adieu les cons, le dernier Dupontel aux 7 Césars, ou Demon Slayer, un film d'animation japonais annoncé comme le phénomène de l'été.
Jean-Luc Bougeon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Les restaurants et les bars aussi ont mis un dernier coup de chiffon sur les tables et sur les chaises, impatients de retrouver leurs clients.
Et ça n'est sûrement pas un hasard si Emmanuel Macron a choisi cette veille de réouverture des restaurants pour appeler à défendre la viande française.
Il faut la défendre partout, a dit le chef de l'État, pas simplement dans les cantines scolaires, dans les restaurants aussi. Emmanuel Macron, qui s'exprimait lors d'un colloque sur la souveraineté alimentaire, il a rappelé que les restaurants en France servent à plus de 60% de la viande d'origine étrangère. Un appel que salue en tout cas Dominique Langlois, il est le président de l'Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes.
Prenez la viande française dans les restaurants, c'est quelque chose que nous portons depuis déjà pas mal de temps, plusieurs années même, parce qu'on ne peut pas d'un côté avoir des consommateurs qui font leurs courses, qui achètent de la viande française dans les supermarchés ou les boucheries, et puis dans les restaurants, ne pas avoir l'origine et ne pas prôner la viande française de qualité. Je pense que là, c'est vraiment un encouragement et bon, ça se fera progressivement, mais il faut enclencher un processus. Donc c'est la volonté de prôner et de défendre notre agriculture. Bon, on a parlé beaucoup de souveraineté alimentaire, défendre notre agriculture, les entreprises de l'agroalimentaire qui transforment cette viande, et donc de faire vivre une filière et puis d'apporter aux consommateurs traçabilité et puis réassurance.
Le président de l'Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes, joint pour Europe 1 par Maud Descamps. Et puis on rappelle que demain à cette heure-ci, vous n'aurez pas à regarder votre montre avec inquiétude puisque le couvre-feu ne démarrera plus à 19h mais à 21h.
Et à la veille de cette deuxième étape du troisième déconfinement, l'épidémiologiste suisse Didier Pittet a remis aujourd'hui à Emmanuel Macron son rapport sur l'évaluation de la gestion de la crise sanitaire.
Les experts ont auditionné près de 200 personnes des mondes scientifiques, administratifs, politiques, pour déterminer les forces mais aussi les faiblesses françaises dans la gestion de cette crise. Anne Le Gall, c'était mal parti mais finalement la France s'est bien rattrapée.
Oui, jusqu'à l'automne, la France faisait plutôt partie des élèves moyens dans la gestion de la crise. Didier Pittet avait pointé dans son rapport d'étape en octobre des problèmes de communication entre acteurs de la santé, un manque d'anticipation dans la gestion des masques, du retard dans le déploiement des tests de dépistage à grande échelle. Depuis, le système français très centralisé s'est adapté en s'appuyant davantage sur les réalités du terrain, avec une meilleure efficacité du dépistage, avec une très bonne adaptation du système hospitalier. Au total, la France s'en est mieux sortie que le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne ou les États-Unis en termes d'impact sur la mortalité. Notre système de protection sociale et les mesures de soutien économique apparaissent aussi comme des atouts dans cette crise. Mais pour la suite, la mission insiste sur l'importance d'une politique de vaccination volontariste à la fois contre le Covid et contre la grippe saisonnière. Et elle recommande d'étudier rapidement les conséquences des reports de soins depuis un an.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
2 ans après l'incendie de Notre-Dame de Paris, les conséquences se font toujours sentir.
Et le parvis de la cathédrale a été fermé provisoirement ce matin en raison d'une hausse des concentrations de poussière de plomb.
Europe 1, Julien Bucher.
Vous restez avec nous dans quelques secondes. 32 candidats tués, ça se passe au Mexique. Le cartel de la drogue tue à tour de bras pour tenter de peser sur les résultats des élections.
Et puis bonne nouvelle pour les amateurs d'art contemporain, l'exceptionnel musée de François Pinault ouvre samedi à Paris.
A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal, 2 nouveaux morts en Israël aujourd'hui après des tirs de roquettes depuis Gaza. Les tentatives de médiation se poursuivent au Proche-Orient.
Oui, notamment à l'initiative de la France. Réunion aujourd'hui des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Israël qui a décidé de refermer un point de passage par lequel était acheminée de l'aide humanitaire. Jean Castex appelle à sa réouverture. Le chef de la diplomatie européenne appelle, lui, à un arrêt immédiat des violences. Quant à Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, il reconnaît que la communauté internationale a eu sans doute tort de regarder ailleurs pendant des années.
Ce qui se passe montre que l'idée qui avait été caressée pendant un temps par certains, qu'on pouvait simplement ignorer le conflit du Proche-Orient, en pensant que le temps arrangerait les choses, cette idée-là disparaît. C'était une vue de l'esprit. Une des raisons de la situation dramatique d'aujourd'hui, c'est parce que précisément, il n'y a pas de perspective d'un processus politique.
Jean-Yves Le Drian, au micro européen de Jean-Sébastien Soldaini. Le Premier ministre espagnol promet de rétablir l'ordre. Il fait appel à l'armée. Après l'arrivée massive de migrants hier dans l'enclave de Ceuta, ce sont finalement plus de 8000 personnes qui sont entrées illégalement en provenance du Maroc voisin, à pied, en bateau ou à la nage, sur fond de crise diplomatique majeure entre l'Espagne et le Maroc.
Toujours à l'étranger, ce constat effarant maintenant. Les élections mexicaines sont en train de tourner au bain de sang. Pas moins de 32 candidats ont déjà été assassinés avant le premier tour du scrutin qui est prévu le 6 juin.
Et on en parle forcément avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors derrière cette vague d'assassinats, il y a les trafiquants de drogue. C'est leur façon à eux de chercher à peser sur les résultats.
Absolument. Alors c'est toute la stratégie des cartels qui est d'imposer leurs hommes de paille par la terreur et l'intimidation. Parce qu'évidemment, dans un narco-État, celui qui contrôle les responsables politiques locaux s'offre une sérieuse protection policière et judiciaire et il s'ouvre également l'accès aux marchés publics qui lui permettent de blanchir son argent. Donc l'enjeu est extrêmement important pour les trafiquants. Il est d'autant plus que les consultations du 6 juin prochain sont des élections générales au cours desquelles plus de 20 000 mandats seront remis en jeu, des maires, des députés fédéraux, mais aussi 15 gouverneurs de région, d'où cette vague de violence politique qui nous paraît proprement incroyable et qui est malheureusement assez récurrente au Mexique. Rappelons quand même que 152 politiciens, dont 48 têtes de liste, avaient déjà été assassinés lors du dernier scrutin général de 2018. Et à ce jour, la presse mexicaine a déjà dénombré pas moins de 79 meurtres depuis le début de la campagne électorale. C'était en septembre. Le dernier en date, c'était jeudi dernier dans l'état de Sonora. Il faut rajouter à cela quelques 500 agressions contre leurs familles et leurs collaborateurs qui sont régulièrement kidnappés pour justement obliger les candidats à se désister.
Et cette ultra-violence politique touche évidemment tout le pays.
Alors à peu de choses près, oui, 31 États sur 32, la palme toute catégorie revenant à l'état de Veracruz, dans lequel ce ne sont pas moins de 14 candidats qui ont été exécutés. Alors, il faut dire que là, on est dans une région tout particulièrement disputée par les narcos, puisqu'elle a une immense façade côtière avec un port international pour exporter la cocaïne, des forêts tropicales impénétrables pour la produire, et en plus, l'ancien gouverneur, qui était une des marionnettes du cartel des Zetas, a été arrêté. Donc aujourd'hui, ce sont 3 organisations mafieuses qui veulent s'approprier ce territoire, et pas des moindres, évidemment, ces fameux Zetas qui sont d'anciens militaires corrompus. Los Antrax, qui sont la branche armée de la, du puissant cartel de Sinaloa. Et puis le petit dernier, qui est en train de prendre une place de choix dans le trafic mondial, c'est le cartel de Jalisco, dit nouvelle génération. Alors certainement le plus brutal, en tout cas celui que le département américain de la justice dénonce comme l'organisation criminelle internationale la plus dangereuse après les triades chinoises et la mafia russe.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Karim Benzema devrait faire son grand retour en équipe de France. Didier Deschamps doit présenter tout à l'heure sa liste pour l'Euro qui se disputera à partir du 11 juin. Et d'après les infos d'Europe 1, il devrait décider donc de rappeler le joueur du Real Madrid, élu récemment meilleur joueur français de l'étranger. Il en rêvait, il l'a fait. L'homme d'affaires breton François Pinault va inaugurer son musée parisien samedi dans l'ancienne bourse de commerce. Et c'est un événement, hein, Diane Chénouda. Ça lui permet de présenter une partie de sa magnifique collection d'art contemporain qui compte 10 000 œuvres.
Oui, avec une première œuvre forte sous l'immense coupole de verre, dans la rotonde baignée de lumière, une œuvre symbole du temps qui file, la réplique d'une grande statue de la Renaissance qui est en fait une gigantesque bougie qui va se consumer au fil des mois. Des sculptures, dessins, photos, vidéos, installations sonores et lumineuses, oui, plusieurs centaines de pièces à découvrir et surtout beaucoup de peintures. Jean-Jacques Ayagon, le conseiller de François Pinault.
La peinture, c'est sans doute le genre qui est le plus accessible au plus grand nombre. D'autre part, beaucoup de ces peintures se réfèrent à des thèmes figuratifs et donc à des thèmes facilement compréhensibles par chacun.
Oui, des œuvres de notre temps qui parlent à tous, confirme Martin Bétheneau, le directeur de la Bourse de commerce.
Je crois que l'un des messages de cette collection, c'est que l'art peut parler à tout le monde. Les œuvres d'aujourd'hui sont en prise directe avec les problématiques de notre temps, avec les questions politiques, les questions sociales, les questions raciales, les questions de genre. L'art contemporain, ça parle à tout le monde parce que ça parle de ces sujets qui sont le quotidien de tout un chacun.
Un nouveau temple de l'art, idéalement placé au cœur de Paris, entre le Centre Pompidou et le Louvre, qui suscite déjà beaucoup d'intérêt. Tous les week-ends sont complets jusqu'à fin juin.
Et l'ouverture, c'est donc samedi. Merci Diane Chénouda. Mais c'est complet.
Donc, hein. Il va falloir réserver rapidement alors si on veut aller visiter tout cela avant les grandes vacances. Merci Isabelle. On vous retrouve demain évidemment à partir de 18h pour Europe Soir. Un petit coup d'œil à la météo avec un 19 mai encore humide, Anissa.
Oui, un 19 mai bien gris. Cette deuxième phase du déconfinement, eh bien, le soleil ne sera pas là partout. Attention, il y a quand même des régions qui auront de la chance demain. Alors on va commencer
Parce qu'on sera là quand même.
Mais on sera là quand même, effectivement. Sur toute la moitié nord du pays, le temps reste très instable encore demain avec de nombreuses averses et puis des orages qui éclatent dans l'après-midi. Le soleil revient doucement par l'ouest et c'est là qu'aura lieu l'amélioration demain sur la façade atlantique. Si vous nous écoutez au bord de la Méditerranée, vous aussi, vous aurez droit à une journée ensoleillée avec encore pas mal de vent demain. Le vent d'ouest qui souffle sur les caps corses, sur le Var et le Mistral qui se lève demain matin. Alors les températures, elles sont en dessous des normales de saison avec 0 à Charleville-Mézières, 4 degrés à Reims, 6 degrés à Lille, 8 à Bordeaux et Lyon, 9 à Paris, Toulouse et Quimper, jusqu'à 14 degrés demain matin à Nice et dans l'après-midi c'est stationnaire comme aujourd'hui, 15 degrés à Paris, Lille, Clermont-Ferrand, 17 à Nantes et Pau, 21 degrés pour Bastia, 22 à Nice et Perpignan et 23 à Marseille. Si vous êtes sous la pluie demain, patience, vous irez en terrasse jeudi, c'est promis.
Oui, on peut y aller sous la pluie aussi.
Oui, c'est autre chose.
Sous la pluie. Vous avez fait vos impôts, Anissa, ou pas?
Oh, pas du tout.
Bon, restez avec nous parce que ce qui suit va vous intéresser dans quelques secondes. Le débat du Club des Idées. On va répondre à toutes vos questions. Émission interactive ce soir exceptionnelle en partenariat avec les experts comptables qui vont nous apporter toutes les réponses à vos questions très concrètes.
Europe Soir, le 18-20.